Donc, grosse annonce demain à 17h du PM François Legault. Plusieurs informations ont circulé dans les médias depuis ce matin, la presse Radio-Can notamment, et ça a créé une onde de choc parmi la population. On est habitué à du confinement, mais là, ce serait le confinement le plus sévère qu'on ait jamais connu, si les informations se révèlent exactes. Comme dans la première vague, on ferme tout, mais là, en plus, il pourrait même ajouter un couvre-feu. Alors, les écoles, les entreprises, tout ce qui est non essentiel, tout fermé, comme au mois de mars-avril le dernier, lors de la première vague. Ça, on sait un peu c'est quoi. C'est plate, mais on est en terrain un peu connu, malheureusement. Couvre-feu, là, ça suscite un peu des inquiétudes. Il y en a peut-être qui se demandent, moi le premier, puis on va explorer ça un peu. Comment ça se fait que le virus circule donc bien? Il reste que, contrairement à la première vague, on met des masques. OK, on en a parlé un peu là, des COVIDiots, mais laissons ça de côté. C'est une minorité. Il y a quand même beaucoup de gens qui respectent les consignes, oui. La distanciation. Il reste qu'on a appris sur le virus. Lors de la première vague, on capotait un peu, je dis ça dans mes mots, là, sur les surfaces. Alors que là, de plus en plus, on voit que c'est pas là que ça se transmet.
Fait une entrevue quand même, et très sérieuse, avec Normand Voyer sur le lavage des cannes de conserve. Puis dans ce temps-là, c'était tout à fait...
On a fait ça.
Ouais, on
a
tout à fait logique de le faire. Oh, oui, on a parlé.
On l'a tout fait.
Non, mais les experts nous disaient absolument. À l'époque. Mais tu sais, la fameuse expression, on construit l'avion en plein vol.
C'est ça.
Bon, ça, c'était lors de la première vague. Là, on en sait un petit peu plus. On sait que les surfaces sont pas vraiment dangereuse. À l'extérieur, on a changé de trottoir pendant au moins 2 mois.
Oui.
On rencontrait des gens pour changer de trottoir. Vous en souvenez?
J'ai fait. On l'a tout fait. Ouais,
on l'a fait.
Au milieu de la rue,
alors que là, on sait que dehors, c'est moins bon. Il reste la fameuse question, est-ce que le virus est aérosol? Est-ce qu'il peut rester dans les airs une demi-heure, une heure? Donc là, ça amène tout l'enjeu de la ventilation. J'ai posé cette question-là, notamment au docteur Carignan, docteur Tremblay, à plein de docteurs lors de la première vague. Et sincèrement, ils répondaient, on le sait pas. Hein? La plupart, c'était, on n'est pas sûr, ça, il va falloir attendre. Il y a beaucoup de docteurs, on va en rejoindre une à l'instant, qui pensent que c'est maintenant confirmé, ben, qui affirment que c'est confirmé que c'est vraiment dans les airs et que c'est bien beau le masque, c'est bien beau le 2 mètres, ils ne sont pas contre ça du tout sûrement, là. Mais la question de la ventilation est un enjeu dont le gouvernement devrait tenir compte. On va aller rejoindre la docteure Marie-Michèle Bellon du groupe COVID Stop. Docteur Bellon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus? Je l'ai dit un peu dans mon introduction, là. Évidemment que ça évolue, puis on blâme pas les experts, là. Tout le monde, au début, c'est arrivé, on connaissait pas ça, COVID-19. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur la COVID-19 concernant les aérosols?
Oui. Ça fait longtemps là, que la question des aérosols, ça c'est un jeu de mots, mais est en suspens ou est dans l'air.
Oui.
Ça fait vraiment longtemps. Ce que je dirais, c'est que quand on fait face à une situation qui est complètement nouvelle, comme une pandémie, il faut surtout pas penser en silo. Puis vous avez nommé des noms de médecins à qui vous avez posé la question, mais je crois que la force de notre groupe puis du mouvement de la lettre là, dont j'imagine que vous allez parler, c'est que c'est justement pas seulement des médecins, c'est très large. Nous, dans notre groupe COVID Stop, notre coordonnatrice scientifique, c'est une physicienne. Ça prend des gens des sciences physiques, ça prend des gens de l'ingénierie, des scientifiques qui peuvent élargir le champ de pensée. Il y a des scientifiques qui sont spécialisés dans les aérosols, notamment à cause de la crise environnementale. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'environnement puis aux aérosols dans l'environnement. Puis il y a des spécialistes, dont un de l'Université du Colorado qui s'appelle José Luis Jiménez, c'est un chimiste qui, pour lui, depuis le début, quand il regarde comment la COVID, ça se comporte au niveau de la contagion, par exemple, on remarque avec la COVID que la contagion se fait souvent par des événements qu'on appelle super propagateurs. Comme par exemple, à Québec, ben, il y a eu le karaoké. Ça, c'était un événement super propagateur. C'est-à-dire qu'en une soirée, il y a comme 30, 35, 60 personnes qui se contaminent. Il y a eu la même chose dans un bingo en Montérégie. Il y a eu un autre party. En tout cas, tous des événements tristement célèbres qui sont des événements super propagateurs. Puis, quand on a ce genre d'événement-là, en fait, la seule explication plausible, c'est la présence d'aérosols. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de virus dans l'air, puis là, tous les gens qui sont présents dans la pièce inspirent cette charge virale élevée-là, puis se contaminent. Alors, les spécialistes des aérosols, comme José Luis Jiménez de l'Université du Colorado, quand il voit comment ça se transmet puis qu'il entend parler de ces événements super propagateurs-là, ben lui, il s'est dit, ça peut pas faire autrement, c'est par aérosol que ça se transmet. Donc, ils se sont mis à étudier cette question-là. Il y a eu des échantillonnages qui ont été faits dans l'air, mais beaucoup à partir de modélisation. Là, on regarde, mettons, il y a eu un restaurant à quelque part en Asie où il y a eu une contamination de plusieurs personnes. Puis là, ils ont étudié où les gens étaient assis dans la salle, comment ils se sont déplacés, puis comment ça se fait que certaines personnes qui étaient placés bien plus qu'à 2 mètres ont été contaminés. Puis, l'explication, c'est le virus, il est dans l'air.
Et il peut rester combien de temps dans l'air? Parce qu'à un moment donné, là, on avait l'impression, à écouter certains, que bon, si on était éloigné avec un masque de 2 mètres, quand même que la personne parle, chante ou crie, que les espèces de gouttelettes, on nous a beaucoup parlé des gouttelettes, allaient finir par retomber au sol. Donc, si on était à 2-3 mètres, il n'y avait pas de danger. Mais là, vous dites, attention, ça reste dans les airs. Et combien de temps à peu près?
Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, les gouttelettes, ça a différentes tailles, ça a différents poids moléculaires. Donc, les grosses, oui, effectivement, elles ne franchissent pas une grande distance, puis pouf, elles tombent au sol, mais il y en a d'autres qui peuvent rester en suspension dans l'air, puis un certain nombre de temps, là, en particulier l'hiver, parce que l'hiver, il fait beaucoup plus sec, donc les particules se déshydratent, ça fait que ça facilite le flottement. Il semble qu'avec la COVID-19, ce ne soit pas des particules qui se rendent très loin. Donc, effectivement, en général, avec le 2 mètres, c'est correct, mais pas toujours. Puis ça dépend toujours de... C'est une question de concentration, c'est une question d'aération. Okay. Est-ce que la salle, elle est petite? Est-ce qu'elle est mal ventilée? Puis quand on a donc quelqu'un qui est un grand émetteur d'aérosol dans une petite salle mal ventilée, ça peut rester longtemps en suspension dans l'air.
On parle d'heure? Ou 2 minutes?
On ne sait pas exactement, mais c'est pas si long que ça. Ça serait plus de l'ordre de 10 minutes à, tu sais, peut-être 1 heure, mais c'est pas si long que ça. Puis là, je veux pas m'avancer là-dedans, mais en tout cas, c'est pas une question de jours.
OK. Est-ce que, à la limite, est-ce que ça pourrait dire que je pourrais l'attraper? Je le mets au conditionnel, puis je fais pas ça pour faire peur au monde, j'essaie juste de voir un peu ce que la science nous dit. Est-ce à dire que, théoriquement, je pourrais donc l'attraper dans une pièce vide, non pas en touchant des surfaces, je sais qu'on a assez parlé de ça, mais là, ça a l'air que c'est moins le danger, mais juste en respirant de l'air, même s'il y a personne, la personne contaminée, elle a quitté depuis 10 minutes, je rentre dans une pièce, mais elle a été contaminée, puis là, il en reste dans l'air, puis ça pourrait m'infecter.
Définitivement. Puis, il y a eu un exemple, les ascenseurs, OK? Il y a eu un exemple, encore une fois, en Asie, comme ça, une personne a contaminé, je pense, 75 personnes via l'ascenseur. Pas parce qu'elle était dans l'ascenseur en même temps que les personnes, mais parce que les personnes ont pris l'ascenseur de façon successive, puis il en restait dans l'air. Puis, tu sais, c'est pas super facile à prouver, mais moi, je travaille sur une unité COVID, puis je suis toujours intéressée quand je questionne les patients à savoir comment vous pensez que vous l'avez attrapé. Puis, il y en a qui ne savent pas, mais j'explore un peu. Puis bon, des fois, la seule explication possible, c'est des gens qui habitent dans une maison-appartement puis qui vont chercher leur courrier dans la même pièce. Ou bien, c'est une famille multigénérationnelle qui se fréquente pas du tout, sauf qu'ils utilisent la même salle de lavage. Donc, ça peut rester dans l'air, puis on peut l'attraper dans une pièce, même s'il n'y a personne d'autre.
Est-ce que ça... Bon, si je comprends bien, là, concernant les mesures, parce qu'on va parler de ça, parce que votre lettre fait des recommandations au gouvernement, tout ça, sur la ventilation, mais juste avant, vous remettez pas en question qu'il faut quand même se laver les mains, porter le masque, puis le 2 mètres. Parce que, si je vous comprends bien, vous dites c'est peut-être pas suffisant, il faut aussi regarder la ventilation, notamment, j'imagine, dans les petites pièces ou les édifices publics. C'est bien ça?
C'est exactement ça. C'est comme des couches de protection supplémentaires. Tu sais, le lavage des mains, c'est bien, mais c'est pas suffisant. D'autant plus qu'on se rend compte qu'il y a peut-être pas beaucoup de contamination via les surfaces. Après ça, le masque, c'est certain que si on dit que ça se transmet par l'air, le masque, c'est extrêmement important. Mais là, il y a la question aussi de quel type de masque. Est-ce que tous les types de masques sont équivalents? La réponse, c'est non. Il y a des petits masques cheap avec une seule couche qui court. Dans le fond, ce qui est important avec le masque, là, c'est l'étanchéité. Est-ce que le masque, il épouse bien la forme du visage? Et est-ce que On veut limiter le plus possible le moindre espace où l'air peut passer, parce que c'est comme ça que ça se transmet avec les aérosols. Donc, le masque, une couche supplémentaire. Le 2 mètres, effectivement, c'est bon, parce que ça a beau se transmettre par aérosol, plus tu es proche de la personne, plus tu es à risque d'inhaler les aérosols d'une personne infectée. Donc, le 2 mètres, c'est très bon. Mais on veut rajouter une couche supplémentaire qui est aérée et ventilée.
Est-ce que le gouvernement en fait assez, selon vous? Dernière question, parce que c'est un peu un drapeau rouge que vous voulez soulever sans faire paniquer les gens.
Oui.
Est-ce que actuellement, selon vous, dans les hôpitaux, dans les écoles ou même, je sais pas, dans les bureaux, les endroits publics, est-ce que le gouvernement, la santé publique, en font assez au niveau de la ventilation?
Définitivement pas. Ils n'ont même pas reconnu le problème. Ils n'ont pas reconnu que la transmission était par, qu'il y avait une transmission par aérosol et que c'était une transmission importante, voire même la transmission principale. Jusque tout récemment, là, j'ai vu hier un extrait d'une question posée à François Legault. C'était à la mi-décembre. Et il dit non, il dit la santé publique nous dit que c'est un mode de transmission marginal. Mais là, on part de loin, là. Le problème n'est même pas reconnu. C'est sûr que les solutions ne peuvent pas être mises de l'avant.
Oh là, ça devient intéressant. On va donc essayer de reposer de bonnes questions. Docteur Bellon, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Merci.
Avec plaisir.
Bonne journée. La docteure Marie-Michèle Bellon travaille dans une unité COVID dans un hôpital. Elle et 400 autres scientifiques de différents domaines, il y a même des chimistes, des physiciens, ils sont 400, ils envoient un message au gouvernement du Québec en disant, là, reconnaissez que la transmission peut se faire par aérosol. Ça veut dire que les gouttelettes, le virus peut rester dans les airs.
Longtemps.
Donc ça...
Passer dans les conduits.
Oui, le masque est important, le 2 mètres, se laver les mains, oui. Mais ça amène, il faut changer l'air. Ça veut dire que ça prend de bons systèmes de ventilation. Là, ça, c'est pas pour nous, là. Moi, là, je peux pas, là. Tu sais, les citoyens, on nous en demande beaucoup. Mm-hmm. La majorité, je sais que vous vous comportez très bien. Mais ça, c'est le gouvernement. Moi, j'irai pas changer les systèmes d'aération dans les hôpitaux ou les écoles. Je peux absolument rien faire à part payer mes impôts, là.
Mm-hmm.
Puis m'attendre à ça. Ça pourrait expliquer un tas de choses. Tu sais, à tous ceux qui disent « Ouais, mais là, il y a du confinement, comment ça se fait que le virus circule autant? » Ben, peut-être qu'on a des problèmes. Cet été, il n'y avait pas grand monde dans les écoles. Il n'y avait pas grand monde dans les bureaux.
Non.
Il n'y avait pas grand monde. Tu sais, on était tous dehors.
C'est ça.
Pendant qu'on était tous dehors, on s'entend que dehors, l'air se change assez.
Naturellement.
Il y a un assez bon système de ventilation.
Il y a un bon
échange d'air. Puis, je suis en train de penser, là, regarde, je ne suis pas un expert, mais je me base sur la science. Cet été, ça s'est bien passé.
Absolument.
On est tous rentrés en dedans. On a respecté les consignes du gouvernement, mais le virus a circulé comme jamais. Bon, il y a une nouvelle variante plus contagieuse. Je le mentionne aussi, j'essaie de tout voir. Mais la docteure Bellon nous dit, attention, si l'air est pas bien ventilé, à la limite, j'ai pas posé la question pour faire peur, mais tu pourrais l'attraper tout seul d'une pièce. C'est ce que je comprends, là.
C'est clair.
Il y a personne devant toi.
Ça me surprend que Dr Bellon dise que le gouvernement ne le reconnaisse pas, parce que quand j'ai fait ma formation de secourisme, on était obligé de sortir à toutes les 50 minutes. Norme de la CNESST, de la salle, donc on était à distance évidemment, les 12 qui étaient là, fallait qu'on sorte de la salle à toutes les 50 minutes pour laisser l'air se régénérer dans la pièce, qui est un échange d'air. Donc la CNESST a mis en place des mesures par rapport à ça. Donc nécessairement, le gouvernement doit être au courant, là.
Les compagnies aériennes l'ont fait?
Oui.
Ils ont modifié leur système de ventilation dans les avions pour changer l'air. Ça veut dire que si eux reconnaissent que c'est aérosol, donc ça peut rester dans les airs, pourquoi le gouvernement le reconnaît pas?
Bizarre.
Il y avait même pas de stats sur la ventilation dans les écoles. La question a été posée, hein?
Absolument.
Pouvez-vous nous dire les systèmes de changeurs d'air, comment ça marche dans les écoles? Avez-vous des stats là-dessus, tu sais, tout ça? Puis, je me souviens que leur première réponse, ça a été, on n'a pas vraiment ça, là. On n'a pas de données là-dessus.
Ils n'ont jamais pensé sur la question.
Ouais. Mm.
Puis, est-ce qu'il y a tant de transmission dans les avions? Tu sais, oui, il y a des cas parce que les gens reviennent, mais dans les avions, il y a un bon système de ventilation. Moi, c'est ça que je pense. Pas sûr, je suis pas une experte en construction d'avions, mais on a l'air de comprendre que dans les avions, il y a une bonne ventilation. On ne dit pas de voyager quand même, là, mais que ça a l'air pas pire. Dans les bureaux,
la question est bonne.
Les contaminations.
Dans les bureaux, dans les petites pièces, il y a du monde qui...
Les écoles, on sait que c'est vétuste, là. On le sait, ils ont l'air de rebâtir.
Il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément d'éclosions dans les écoles. Tu vois, les garderies, il y en a moins. Alors, les CPE, les garderies, c'est des constructions récentes.
Absolument.
J'ai lu ça un matin, là, parce qu'avec ce qu'il va nous annoncer demain, ça se peut qu'ils laissent les garderies ouvertes. Contrairement à la première vague. Ils vont serrer à vis pas mal dans d'autres domaines, mais les garderies pourraient s'en sortir. Vous savez pourquoi? Ça a l'air que ça se passe bien. La majorité des CPA, c'est des constructions récentes. Absolument. C'est apparu dans les années 90, ouais. 2000. On a des écoles qui datent des années, on ne m'entend pas en parler, là.
Plusieurs décennies.
des années.
Des écoles de campagne.
Ah oui, ah oui. Alors, docteur Malon, je trouve ça fort intéressant. Il y a de bonnes questions à poser là-dessus. On va mettre ça en réserve. 25226, si vous avez des commentaires.